Du business ici, comparé au reste du monde, devrait être plus équitable. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas tellement la question des véhicules et de la concurrence pour les fabricants, mais bien les conditions dans lesquelles ils peuvent rivaliser. Et c'est là où les décideurs politiques européens, ou même nationaux, peuvent faire la différence et doivent la faire.
L'Europe sera le premier continent à interdire la vente de voitures thermiques. Mais paradoxalement, elle est en retard, alors que les Chinois ont investi massivement dans les ressources nécessaires à la fabrication des voitures électriques. Et pour le comprendre, on va faire un peu de chimie. Mais de la chimie simple, avec un beau tableau de Mendeleïev géant et les cours particuliers d'Augustin de Koning, géologue à l'ULB.
Alors dans les batteries, on va surtout retrouver du cobalt et l'élément qui est aujourd'hui au centre des attentions, c'est le lithium, qui est léger. Et donc c'est pour cette caractéristique qu'on essaye de le valoriser dans les véhicules électriques.
Lithium, cobalt, manganèse, graphène, aluminium, au total une douzaine d'éléments peuvent être utilisés pour fabriquer des batteries et stocker l'électricité. Dans une voiture électrique, il y a aussi des terres rares, c'est le cheval de bataille des opposants. La fabrication des véhicules compromettrait l'avenir des ressources. En fait, les terres rares, ce sont 17 éléments fort semblables qui servent à fabriquer des aimants que l'on trouve dans presque tous les moteurs électriques et donc sans doute dans celui de votre machine à laver aussi. En réalité, ce ne sont pas des terres mais des minerais et elles ne sont pas rares, il y en a partout dans le monde.
Elles sont rares parce qu'elles sont difficiles à séparer et à extraire des roches.
Aujourd'hui, les terres rares servent aussi à fabriquer les catalyseurs de nos voitures à essence, à polir les écrans ou à créer les couleurs des LED. Chaque année, on leur trouve de nouvelles applications.
Alors ça reste toujours les éléments les plus rentables, notamment parce que donc, ça forme des alliages très facilement avec d'autres métaux. Ça résiste très bien à la chaleur. Et le troisième point important, c'est que ça a une durée de vie assez longue et ça résiste très bien au temps.
Et c'est là qu'on retrouve la Chine. Elle possède 6 des 10 plus grandes sociétés minières au monde. Elle est active dans l'extraction de cobalt et de cuivre en Afrique, et surtout, elle possède les fameuses terres rares qui servent à fabriquer les moteurs.
Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la Chine qui détient à plus de 90% le marché mondial de terres rares. C'est ce qu'on appelle un monopole commercial. Donc ça veut dire que pour l'instant, si une société décide de lancer une extraction de terres rares, ben, la Chine n'a qu'à artificiellement diminuer les prix pour asphyxier l'économie européenne.
Construire une voiture électrique, cela demande beaucoup de ressources minières, bien plus que pour une voiture thermique, et cela pose question. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les vertus écologiques de la voiture électrique, dont on dit qu'elle serait verte. Gigi, jeune retraité, nous a contactés. En tant que déléguée commerciale, elle parcourait 120 000 km par an en voiture, une diesel. Au moment de remplacer son véhicule, elle a à nouveau choisi ce type de carburant.
J'ai des craintes, effectivement. Tout d'abord, des craintes écologiques, parce que cela me donne l'impression que nous allons rouler propre chez nous, qu'il n'y aura plus d'émissions d'effet de serre. Mais sur les sites où l'on va extraire le cobalt et le nickel, il faut voir ce qui se passe. Que l'on m'explique par A plus B comment une voiture électrique permet de respecter davantage l'environnement.
C'est vrai qu'en plus d'utiliser des ressources énergivores et polluantes, la fabrication génère aussi du CO2 responsable du réchauffement climatique. Mais dans quelle mesure? La voiture électrique entraîne-t-elle de graves conséquences écologiques? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de Judith Pigneur. Elle est docteure en génie industriel et spécialiste de l'impact de l'extraction minière.
En fait, toutes les problématiques de l'extraction minière, on ne les découvre pas avec le véhicule électrique. Ces problématiques existent depuis longtemps. Sur les terres rares, aujourd'hui, ce qui tire la consommation, c'est quand même plus, par exemple, le numérique, ça va être les climatiseurs, ça va être vraiment d'autres domaines que celui de la transition. Et même de manière générale, si on oublie les terres rares, aujourd'hui, la transition écologique et les véhicules électriques représentent une très faible part de la production minière mondiale.
On ne creuse pas de mines pour fabriquer des batteries, mais on extrait toujours plus, car on a besoin de plus de matériaux.
C'est vrai qu'il faut être honnête, c'est-à-dire que dans le futur, les prévisions qui sont faites de l'augmentation de certains métaux, donc liés effectivement aux batteries et aux moteurs de voitures électriques, sont très 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 importantes. Donc on va avoir un développement industriel qui, s'il n'est pas encadré, risque de provoquer des impacts assez massifs sur la biodiversité.
Bon, à la production, le bilan environnemental de notre voiture électrique n'est pas des meilleurs. Mais quand elle roule, c'est autre chose, puisqu'elle ne rejette aucun polluant ni gaz à effet de serre parce qu'elle ne brûle rien. Pas d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone ou d'hydrocarbures imbrûlés. Il y a bien des particules fines émises par les pneus et les freins, mais sans commune mesure avec une voiture diesel, même de dernière génération. Alors, quel est son bilan écologique global? Pour le savoir, on s'est rendu sur le campus de la VUB à Bruxelles. Un bâtiment anodin parmi d'autres abrite pourtant le plus grand centre de recherche d'Europe consacré à l'électromobilité.
En effet, l'université de Bruxelles est pionnière en la matière parce qu'on a commencé nos recherches sur le véhicule électrique il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on roulait déjà autour d'ici avec des véhicules électriques à cette époque. On était un petit groupe, mais entre-temps, on a grandi pour rassembler 120 experts dans le domaine de la voiture électrique.
Les chercheurs de l'université néerlandophone sont les premiers à avoir publié une étude comparative sur les rejets des voitures thermiques et électriques.
C'est très important quand vous comparez différentes technologies automobiles de prendre en compte toutes les étapes de la vie d'un véhicule. Pas seulement les émissions du poids d'échappement, puisque dans le cas d'une voiture électrique, il n'y en a pas. Mais vous devez tenir compte que vous devez produire de l'électricité et construire le véhicule lui-même, et plus spécifiquement les batteries de ce véhicule. Si vous prenez tout cela en compte, vous parlez de l'évaluation du cycle de vie. Et si vous le comparez au véhicule essence ou diesel, vous voyez que vous avez 3 à 4 fois moins d'impact sur le changement climatique en Belgique. Le véhicule électrique est 3 à 4 fois meilleur que le thermique.
Des résultats similaires ont été confirmés par différentes études depuis lors. La voiture électrique n'est pas totalement verte, mais bien plus que son équivalent thermique qui brûle le carburant de son réservoir. Dans la voiture électrique, ce réservoir devient l'élément le plus important du véhicule, c'est la batterie. Elle est lourde et son autonomie est plutôt limitée. En 10 ans, cette autonomie a quand même été multipliée par 4 et le prix des batteries divisé par 10. Et c'est loin d'être fini. Partout dans le monde, les recherches se focalisent sur des batteries plus légères, plus performantes, plus sûres et moins chères. On les appelle des batteries solides et les résultats sont encourageants.
Dans le futur, on aura des batteries moins chères parce qu'on travaille déjà avec des matériaux moins critiques. On étend la durée de vie des batteries tout en les rendant plus sûres. Et tout cela ensemble diminuera le coût des batteries.
Et quand pourrais-je acheter une voiture avec 1000 km d'autonomie? Est-ce que c'est réaliste?
C'est réaliste, cela viendra dans le futur. On travaille dessus, on fait des recherches quotidiennes sur les batteries solides qui nous donneront les possibilités d'avoir cette batterie idéale pour les voitures électriques.
Qu'elle ait 100 ou 1000 km d'autonomie, il faut quand même recharger la batterie. Si toutes les voitures belges deviennent électriques, cela demandera beaucoup d'énergie. Et on n'achemine pas l'électricité en camion-citerne, mais bien sur un réseau déjà existant.
Le transformateur qui est derrière moi et tous les autres transformateurs, en 2035, vont probablement devoir être renforcés.
Si David Van Gulik connaît le dossier, c'est parce que les gestionnaires de réseau ont réalisé de nombreuses études et préparent activement le changement. Car à la voiture électrique, il faudra aussi ajouter le chauffage et la transition numérique. Les besoins en énergie ne feront donc que croître.
Alors, au niveau de l'énergie, l'augmentation pour les véhicules électriques, on est aux alentours de 10 à 15% d'augmentation par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une augmentation non plus exponentielle. Donc, ce sont des choses qui sont aujourd'hui, d'après les études que nous avons, qui sont tout à fait maîtrisables tant au niveau de la production qu'au niveau des importations que l'on peut avoir à partir des pays voisins. Donc, en termes de consommation d'énergie, ce n'est pas un gros souci. Par contre, en termes de puissance, donc le moment où les gens vont charger, là, le comportement des clients va être essentiel pour voir jusqu'à quelle mesure on va devoir renforcer ou pas renforcer le transformateur que j'ai derrière moi.
Au niveau production, on devrait donc répondre à la demande. Les problèmes viendraient plutôt du côté de la stabilité du réseau. Si tous les utilisateurs chargent leur véhicule au même moment, généralement en soirée, cela pourrait coincer.
On doit déjà aujourd'hui commencer à essayer d'anticiper le comportement des clients, le nombre de véhicules qui va arriver. Donc on parle quand même de 2 millions à 2,5 millions véhicules électriques à l'horizon 2035, ce qui est quand même une part importante de la mobilité. Et donc on doit anticiper. Donc le maître mot, c'est d'anticiper. Sinon, effectivement, on risque de se retrouver à devoir courir derrière les clients, derrière les problèmes qu'ils vont rencontrer. C'est ça ce qu'on veut absolument éviter.
Mais on peut y voir aussi une opportunité. Pour la première fois de l'histoire, on va pouvoir stocker des millions de kilowattheures d'électricité dans des batteries. Pour le parc automobile belge, cela correspond à un an de consommation électrique pour les habitants de Liège et Charleroi. Et ces batteries sur quatre roues vont bientôt jouer un rôle essentiel dans la stabilité du réseau. C'est ce que l'on appelle la charge bidirectionnelle. La voiture branchée ne charge pas nécessairement. Elle peut fournir du courant au réseau ou à son habitation. Au laboratoire de la VUB, on travaille évidemment sur cette technologie déjà bien avancée.
On peut imaginer que je travaille ici, à l'université. En journée, le soleil brille et je peux charger ma voiture avec l'énergie solaire des panneaux. Je retourne à la maison et quand je suis chez moi, je branche ma voiture, mais je ne la charge pas plus. Je fais le contraire. Je prends l'énergie, l'électricité solaire de ma voiture, que je donne à ma maison pour cuisiner ou regarder la télévision. Et ça aura un impact sur le réseau, qui devra forcément distribuer moins d'électricité. Est-ce que c'est de la science-fiction ? Eh bien, il y a 4 ans, je me suis rendu au Japon. Il y a aussi des concessions, avec des grandes vitrines, où l'on peut admirer des belles voitures. Eh bien, les voitures électriques vendues là-bas étaient déjà équipées et livrées avec ce qu'on appelle un chargeur bidirectionnel, c'est-à-dire un chargeur qui vous donne la possibilité de rendre de l'électricité à votre maison. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement fantaisiste ou pour un futur lointain.
Avant que votre voiture n'éclaire votre maison, comptez une dizaine d'années. Parce qu'il reste encore quelques écueils à lever. Le nombre de cycles de charge plus élevé réduira la durée de vie des batteries et donc des voitures. Et si les batteries vieillissent plus vite, que pourra-t-on en faire en fin de vie ? Eh bien, comme le reste de la voiture, on recycle. Et dans ce domaine, l'Europe et particulièrement la Belgique peuvent tirer leur épingle du jeu. Direction le Limbourg, près de la frontière néerlandaise. Dans cet entrepôt, des milliers d'ordinateurs, d'imprimantes, smartphones ou tablettes attendent d'être démontés puis réutilisés ou recyclés. Rien à voir avec l'automobile, me direz-vous ? Eh bien si, et de plus en plus.
Ici qu'on stocke les batteries, on les met d'abord en quarantaine et puis on les met dans un autre conteneur une fois qu'on a vu qu'ils ne bougent pas, que la température est stable.
Catherine, c'est la directrice de Febel Auto, l'organisme qui gère les véhicules hors d'usage en Belgique.
Ça, c'est les batteries dans les caisses.
Oui. Donc, par exemple, nous avons ici une toute nouvelle batterie, mais elle a eu des problèmes pendant le transport. Et donc, pas toutes. Il y a des petits détecteurs qui ont dit qu'il y a un problème. Elle a été bougée pendant le transport. Et elle n'est plus. C'est plus assez sécurisé. Donc, on l'a reçue ici. Mais comme vous voyez, elle est tout à fait neuve. Donc, au lieu de la recycler, on va la donner une deuxième vie.
L'an dernier, 500 batteries de voitures électriques sont passées par ici. Aujourd'hui, on travaille sur des modules d'une voiture de sport électrique.
Donc on va d'abord tester si cette module a une bonne santé pour la donner une deuxième vie. Et donc une batterie est composée de différentes cellules, comme ici, vous voyez, en cylindrique, des cellules de la batterie, mais on a aussi des batteries qui sont composées de pochettes. Et donc, une fois qu'on sait que la batterie est bonne, que toutes les pochettes et toutes les cellules sont bonnes, on va la donner une deuxième vie dans des systèmes de stockage énergétique, comme vous voyez par là.
La batterie ne roule plus, elle devient stationnaire. Et on peut l'installer dans une maison ou un commerce dans le but de stocker l'énergie des panneaux solaires, par exemple. La moitié des batteries ont ainsi une nouvelle vie. Le reste est recyclé dans une usine, un rien plus grande. Nous sommes à Anvers, chez Umicore, qui produit et recycle des métaux à haute valeur ajoutée. Tellement haute valeur ajoutée que les secrets de fabrication sont bien gardés. Les images que vous voyez, le recyclage des batteries au lithium, nous ne les avons pas filmées. C'est l'entreprise qui nous les a fournies. Aucun journaliste n'a jamais pu accéder au lieu. L'interview du patron de la branche recyclage aura lieu dehors.
On a dû développer une technologie spécifique parce que c'est très complexe une batterie. C'est une petite usine chimique qu'on a dans son téléphone ou dans sa voiture. Et donc nous, on se focalise sur la récupération des métaux qui sont les plus rares et qui ont donc le plus de valeur. Le nickel, le cobalt, le cuivre et le lithium, c'est sur ces métaux qu'on est focalisé. Donc non seulement nous les récupérons, mais nous les transformons ensuite en produits pour batteries que nous vendons à nos clients pour faire de nouvelles batteries.
Ici, on recycle 7000 tonnes de batteries par an. Et avec le développement annoncé de la voiture électrique, les ambitions sont revues à la hausse. Une nouvelle usine est en projet.
Pour vous donner une idée, donc l'usine qu'on va construire en Europe fera 150 000 tonnes, elle aura une capacité de 150 000 tonnes, ce qui donne un équivalent d'à peu près 350 à 400 000 véhicules. Et c'est pas négligeable parce qu'en recyclant 150 000 tonnes de batterie, on récupère à peu près 30 000 tonnes de nickel, et 30 000 tonnes de nickel, c'est la taille d'une mine de taille moyenne.
Maintenant qu'on a sympathisé, on peut toujours pas aller voir à l'intérieur?
Non, c'est vraiment quelque chose qu'on garde rien que pour nous.
Comme Umicore dispose aussi d'usines de fabrication d'éléments de batterie, la boucle est bouclée. On crée de nouvelles voitures à partir d'anciennes, sans nouvelles mines et sans pétrole. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas simplement d'un changement de carburant, mais bien d'une révolution.
L'électrification, c'est une évolution ou une révolution ?
C'est les deux. C'est une évolution parce que cela prendra du temps. Toutes les transitions prennent toujours du temps. Il y a donc un élément d'évolution là-dedans, mais c'est aussi une révolution en effet, parce que cela va complètement transformer la mobilité. Cette industrie existe depuis 125 ans, et je pense qu'on verra plus de changements dans les prochains 5 ou 10 ans que tout ce qu'on a connu en 25 ou 50 ans. Donc oui, il y a un élément révolutionnaire aussi.
Comme tous les changements, celui de la mobilité électrique s'accompagne de craintes et questionnements. Un véhicule électrique qui prend feu, et les images font le tour du monde. Le risque d'incendie est pourtant 60 fois moindre qu'avec l'essence. La décision européenne est lourde de conséquences. Le vieux continent veut montrer l'exemple. En 2035, les voitures électriques cohabiteront certainement avec des camions à hydrogène et des avions au carburant de synthèse. Pour réduire les rejets, la voiture électrique représente la solution évidente. Reste que la révolution électrique ne touchera pas l'ensemble des citoyens de la même manière. Ceux qui disposent de places de parking, de panneaux photovoltaïques ou de véhicules de société ne payeront pas le même prix que les citadins de classe moyenne, tributaires des recharges publiques. Et puis quel sera le tarif de l'électricité? Quelles nouvelles taxes verront le jour pour remplacer les actuelles ou les accises sur les carburants? Les questions demeurent. Mais la transition est déjà en cours.
Oui, on veut utiliser la voiture électrique d'une manière différente de ce que l'on a l'habitude de faire avec une essence ou une diesel. On se branchera quand on se garera quelque part et on pourra jouer avec le réseau. On ne devra plus se dire « Ah oui, la semaine prochaine, je dois faire le plein et trouver une station-service ». C'est une autre manière, sans doute la vieille manière de penser.
Quant à notre voiture électrique, nous l'avons rendue avec 2000 km supplémentaires au compteur. Notre moyenne de consommation était un peu plus de 20 kWh au 100. Au prix moyen de l'électricité en 2022, cela revient à 7 euros des 100 km, l'équivalent de 4 litres au 100 avec une voiture essence. Avec un peu d'organisation pour les longs trajets, on n'a subi aucune contrainte à part notre petite aventure parisienne. Ah oui, on ne vous avait pas encore parlé du prix de notre auto. Avec toutes ces options, c'est 65 000 euros, impayable pour la majorité de la population. D'ici 2035, beaucoup de choses vont encore évoluer. La transition vers le zéro carbone dans l'automobile prendra moins de 12 ans, alors qu'elle était inenvisageable il y a quelques années à peine. Il reste donc très peu de temps pour réfléchir à son prochain mode de déplacement, quand posséder une voiture ne sera peut-être plus une évidence pour tous.